histoire particulière. C'est l'histoire d'une vallée perdue dans le massif du Jura, coincée entre la France et la Suisse. Un petit bout de terre oublié des géographes qui ignoraient où passait la frontière. Le 8 décembre 1862, après des décennies de brouille, Napoléon III redessine la frontière entre la France et la Suisse, coupant en deux la vallée des Dappes. Bienvenue dans la principauté d'Arbésie, un hôtel construit sur la frontière, niché dans les montagnes jurassiennes, sans doute le plus petit état du monde.
Alexandre Perron, est-ce qu'on pourrait planter le décor ? Où est-ce qu'on est d'abord ?
Ben là, on est en plein milieu du décor, en tout cas du côté suisse. En fait, on est sur un lieu qui s'appelle l'Arbésie, qui est un territoire à cheval sur la frontière entre la France et la Suisse. Et là, on est sur la partie suisse. D'ailleurs, d'où on est, Michel, on voit très bien la douane suisse. Donc, en face à nous, on a même le drapeau suisse, le petit carré rouge avec la croix blanche. Et là, on est sur une terrasse qui, d'ailleurs, ressemble un peu à une salle de théâtre, une pièce de théâtre. Et là, on peut rentrer en Arbésie. C'est l'entrée suisse.
L'altitude ?
Alors là, on est à 1097 mètres au niveau du bar.
Et l'Arbésie, c'est quoi par rapport à la France et la Suisse ?
Alors, en fait, l'Arbésie, c'est le... Je dirais que c'est déjà le grain de sable entre la France et la Suisse, mais c'est surtout un tout petit territoire, un terrain qui appartient à la famille. Depuis que la frontière a changé de place, ce terrain s'est retrouvé traversé par la frontière, et donc la moitié de ce terrain est sur France, donc moitié sur Suisse. Et sur ce terrain, la famille, il y a quelques temps déjà, en a profité pour faire un hôtel. Donc vous êtes dans l'hôtel l'Arbésie, cet hôtel est traversé par la frontière.
Arbésie, l'hôtel passe-frontière. Michel Pomarède, François Test. Première partie, un établissement traversé par l'histoire. Alexandre Perron, est-ce qu'on peut imaginer que vous vous tenez à l'endroit où Napoléon III, en 1863, discute avec le représentant de la Confédération helvétique, justement sur le tracé entre la France et la Suisse ?
Là, d'où l'on est, on voit très très bien la borne frontière. Et vous voyez, on est passé maintenant du côté français. Vous voyez bien, hein, le petit muret là au sol marque véritablement la frontière. Et cette borne qui est adossée au mur de l'Arbésie, eh ben on voit que du côté français, c'est marqué France, c'est bien. Et puis juste au-dessus, vous avez l'aigle. Or, la France n'est pas représentée par un aigle, sauf pendant sa période historique de l'Empire napoléonien. Donc vous avez ici une situation finalement géographique, c'est la bonne frontière, mais vous avez aussi la situation dans le temps. C'est à l'époque où la France était un empire. D'ailleurs, sur le bord, vous voyez, c'est marqué 1863. Donc ça nous replace vraiment dans le temps, à cette époque où, effectivement, la frontière a changé de place du fait de Napoléon III. Napoléon III, ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il était suisse de par sa mère. Donc, il a négocié exactement à cet endroit-là parce qu'effectivement, il connaissait très bien la région, en fait. Parce qu'il avait fait d'ailleurs son armée en Suisse, il était capitaine de l'armée suisse. Et donc, il connaissait très bien les plénipotentiaires suisses.
Mais qu'est-ce qui se passe entre cette rencontre entre Napoléon III et les représentants de la Confédération helvétique ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un vide juridique avant le tracé définitif ? Et là apparaît un autre personnage, Monsieur Pontus. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Pontus ?
Alors là, Monsieur Pontus, en fait, directement le trisaïeul du grand-père, en fait, c'est tout simplement déjà à l'époque, bon, on est dans un endroit qui est très peu peuplé, et les terrains, comme vous le dites, il y a un flou, juridique, puis un flou tout court, vous voyez, il n'y a pas trop de gens. Puis dans ce flou-là, qu'est-ce qu'ils font les gens ici ? Ben, ils font un peu de contrebande, ça permet de survivre. La région est quand même relativement rude, et l'hiver, on n'a pas grand-chose à faire. Alors on fait quand même des lunettes à terme, on fait c'est toute une industrie qui s'est faite ici. Mais enfin, quand même, entre la France et la Suisse, déjà, il y a ce petit trafic qui se fait. Or, M. Pontus, lui, il est déjà un petit peu engagé dans ce genre de commerce, si vous voulez. Et en fait, ce M. Pontus, qui a l'habitude justement de bien regarder où elle passe, la frontière, puis surtout où sont cachés les douaniers, ben lui, il comprend que la frontière va traverser ce qui est déjà son terrain. Alors, il n'a pas été le seul à avoir un terrain traversé par la frontière. Mais par contre, c'est le seul qui a eu l'audace, le culot, on peut le dire, de commencer un bâtiment sur ce qui allait devenir la frontière, qui le sera effectivement en 1863. Pourquoi il le fait ? Parce qu'effectivement, il a toujours un petit peu ses idées derrière la tête. Il va pouvoir faire son commerce, non plus en prenant froid, en traversant la frontière au milieu des bois, mais tranquillement installé chez lui, entre sa cuisine et son salon.
Napoléon III, Pontus, quand est-ce que Arbé, votre ancêtre, intervient? Et pourquoi est-ce que la Pontusie, ou ce qu'a créé M. Pontus, ça ne marche pas?
En fait, ce monsieur, il a eu deux fils qui se sont fâchés. L'un des fils Pontus avait le fonds de commerce et l'autre avait les murs. Et mon arrière-grand-père, Arbé, un jour, il a su qu'il y avait dissension. Il a très vite acheté le fonds de commerce à l'un des frères. Et après, il est allé voir le deuxième en disant « Mais ton frère m'a déjà trahi en fait le pacte qu'ils avaient de famille. Tu devrais me vendre les murs qui vont avec. » Et par dépit, dépité, le deuxième frère en a vendu le tout, si vous voulez, à l'arrière-grand-père, donc Jules-Joseph Arbé, qui l'a eu en 1920 environ. Et donc là, il a fait vraiment un hôtel.
Bernard Arbet.
Oui.
Je vous présente comment? Comme Bernard Arbet ou comme le prince?
Je préfère Bernard Arbet quand même. C'est plus simple et puis ça me convient mieux. À une certaine époque, il y avait ici, il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas d'industrie. Et l'économie, c'était la contrebande. Et avant que la rectification de frontières se fasse, la contrebande marchait bon train. Et la halle, les jouvencelles de le nom d'aujourd'hui, s'appelait la halle où on déposait tous les produits de la contrebande, qui étaient en particulier le sel, le tabac et l'alcool. Et puis d'autres, tout ce qui était manufacturé, passait ici, était reposé, et après était expédié sur la Suisse. La rectification de frontières a changé la frontière. Et la personne qui tenait la halle, cet endroit, a vu qu'elle perdait son intérêt, donc elle est venue, elle a construit sur Suisse. Et là, en quelques temps, ça marchait bien, il a fait fortune. Puis il y a un gars qui s'est dit, après tout, je peux essayer de construire. Donc il a commencé à bâtir sa maison, c'était 1868, par là.
Pontus.
Et Pontus, au bout d'un moment, quand ils sont venus pour poser les bornes, ils sont aperçus que la maison était moitié. Donc ils ont demandé à ce qu'elle soit démolie. Puis lui s'est dit, j'ai investi, vous pouvez toujours y aller, j'ai pas envie. Puis le temps qui remonte, vous savez, ça se faisait avec des diligences, etc. Donc il a eu l'idée de poser une partie de la charpente. Et ça, c'est vrai, c'est authentique, on n'a pas pu lui faire démolir. Alors évidemment que ça a été un procès, tout le monde en a voulu à ce bonhomme, on l'a traité de tous les noms, mais il était dans la légalité.
Jean-Charles Arnaud, qu'est-ce que vous faites dans l'histoire de l'Arbésie?
C'est une proximité de Jurassien, et puis aussi d'Arbésien, voilà. Avec Bernard, on est des amoureux de notre terre, on y est né, on y mourra, et ça nous va bien comme ça.
Si mes informations sont correctes, en Arbésie, on vient de demander des passeports, et vous avez demandé le passeport diplomatique pour être ambassadeur d'Arbésie.
Oui, ambassadeur d'Arbésie, oui. Ben avec Bernard, on a, comme vous pouvez le comprendre, on a une proximité sur ce terroir. C'est un lieu assez spécifique au-delà du territoire arbésien. Ce val d'Orbe, vraiment ce val d'Orbe, pas une combe, c'est un lieu de passage assez incroyable, puisque c'est le lieu où les civilisations du Sud rencontraient à la fois celles de l'Est et celles du Nord. Quand vous êtes dans ce val d'Orbe qui prend son origine quelque part en Arbésie et juste à côté de l'Herbésie, c'est soit vous basculez sur le Rhône avec la culture méditerranéenne, soit vous allez sur les peuples séquanes, celtes ou les peuples encore un peu plus orientaux. Donc c'est un lieu, c'est pas un lieu comme les autres, quoi, indiscutablement. Oui, c'est une culture, c'est là où est née la fabrication de ce fromage il y a 2600 ans pour ce qui s'appelle aujourd'hui donc le comté. Mais c'est là aussi où l'histoire a toujours eu des frictions, évidemment, quoi. C'est le cas avec Napoléon, mais ça a été le cas déjà avec César, puisque César a déjà emprunté et créé cette route. 125 ans avant César, l'Empire romain s'arrête au pied, effectivement, du massif jurassien, au bord du lac Léman, à Nyon. Et donc, c'est un lieu de, à la fois de rencontre de toutes les civilisations, peut-être, qui ont constitué donc cette planète Terre, et puis un tout petit territoire à la jonction de tout cela. Et Bernard est un fou d'histoire, et moi, bon, je me suis occupé beaucoup de ma vie dans l'origine. Je crois d'ailleurs que nous ne sommes que des passeurs provisoires de culture. Oui.
Nicolas Gascard, vous êtes photographe et vous exposez en Arbésie. Mais vous exposez quoi ?
Alors cette expo en Arbésie, c'est sur le concept avec l'ami Alex qui avait déjà un petit intérêt pour mon travail à une certaine époque. Et on s'est rendu compte qu'en fait le Jura était assez symbolique et significatif de plusieurs identités géographiques. Il est vrai que dans le Jura, on peut retrouver aussi bien des paysages assez paisibles, les vignobles qui font penser parfois à la Toscane, les lacs au Petit Canada, les cascades de Madagascar, et on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à cela, un concept photographique et iconographique à la fois, d'où l'expo Jura, l'autre regard, qui a pris naissance maintenant il y a 4 ans.
Et donc là, géographiquement, vous exposez où en fait là ? On est en France, on est en Suisse, on est où là ?
On est vraiment à cheval sur deux pays là, c'est assez incroyable. Nous sommes sur le chemin d'Angèle, là, le chemin où se trouve l'expo. Et il s'avère que, alors, d'un point de vue identitaire, on ne sait pas là vraiment si on est encore en France ou sur la Suisse. Logiquement, nous avons une borne un peu plus loin qui est assez significative et qui délimite géographiquement hein, les deux pays. Mais on est un petit peu sur les deux en soi, parce que c'est vrai que le massif du Jura, ce qui est intéressant, c'est ce partage à cheval sur deux pays. Et finalement, les paysages sont quand même assez différents, tout en se ressemblant.
Description un peu de cet hôtel aujourd'hui, à quoi ça ressemble ?
Allez, on va dire, on est comme sur un triangle. Allez, un triangle qui serait à l'intérieur d'un Y, pour vous situer. Le Y, ça représente les routes. Et à l'intérieur du Y, vous avez un triangle, d'accord ? Et bien là, on est sur la partie haute du triangle, et les deux côtés, hein, et ben, c'est la route française, à votre droite, puis à la gauche, c'est la route suisse. Puis à la pointe du triangle du bas, ben, c'est là où sont les douanes, en fait. C'est un peu compliqué, mais nous, on est au milieu de ce triangle. Et donc, c'est là où vous avez ce bâtiment. Le milieu de ce Y est traversé par la frontière.
Mais est-ce que la famille Arbet continue, on pourrait dire, les trafics de la famille Pontius ?
Oh non, jamais de trafic, jamais, bien entendu. Surtout à la radio. C'est pas que vous avez profité d'un trafic, un odieux trafic, Michel, à midi, puisque je crois que vous avez mangé une tome vaudoise. Donc effectivement, ça nous arrive à passer quelques fromages. Vous savez que certains fromages, parce qu'ils sont de lait cru, sont interdits d'importation en Europe. Pas seulement en France. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, ça s'arrête à ça.
Quelque part, vous savez, les gens ici n'imaginent pas qu'on puisse ne pas faire de trafic. Si, mon père, qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait l'essence qui était bon marché en Suisse pour remplir les réservoirs des voitures qu'il mettait dans le garage. Puis les gars repartaient avec une essence qui était relativement bon marché par rapport à la France. Mais ça, si vous voulez, ça donnait... Ça rendait curieux les gens. Il dit, s'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais il avait quand même la conscience de ne pas trahir l'esprit de la maison. Parce que imaginez bien que s'il y avait eu quoi que ce soit, on serait plus là. Vous savez, on avait quand même l'ensemble des autorités, surtout douanières, et qui avaient un œil constamment sur nous. Mais vous savez, ce qui est intéressant aussi et qui est curieux, c'est qu'il y avait deux postes d'essence. Un poste d'essence sur France qui était Azur, démarré, et Shell qui était sur Suisse. Alors, tout le monde a eu à imaginer qu'il y avait un tuyau qui passait dessus pour arriver. Mais le tuyau, on n'a jamais découvert.
Vous, la première fois que vous avez entendu parler de l'Arbésie, c'était quand ? C'était comment ?
Alors moi, c'est un concours de circonstances plus ou moins assez particulier et hasardeux à la fois. Si vous voulez, moi je chasse les orages depuis 20 ans maintenant, 25 ans. Et il s'avère qu'en août 2001, je filmais un orage près du Noirmont. Un orage de orographique qui engendrait des coups de foudre non loin de la cure. Et à cette époque, Richard, qui est l'oncle d'Alex Perron, était pompiste. Il y avait une station là, 10 mètres plus loin, côté suisse, une station Shell. Et ce jour-là, en fait, il servait un client, il avait la pompe à la main et la foudre est tombée à quelques mètres de lui. Et il s'avère que cet impact de foudre, je l'avais filmé. De là, forcément, une rencontre s'est matérialisée. Et forcément, c'était quand même assez étonnant, hein, vous me l'accordez. Et depuis ce moment-là, finalement, nous nous sommes rapprochés, nous avons sympathisé. Et puis il y avait cet intérêt pour mes photographies associées à ce qui s'est passé ce jour-là avec Richard par rapport à la foudre.
Donc il y a un coup de foudre pour l'Arbésie.
En quelque sorte, on peut dire cela, oui.
Donc votre ancêtre Arbé, Jules, rachète l'ensemble, ouais, à un fils qui s'appelle Max.
Max.
Et là, on arrive dans quelque chose qui rappelle presque l'origine géopolitique de l'Arbésie. Napoléon III, les armées qui pouvaient intervenir, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est des hauts faits glorieux qui se passent dans cet hôtel.
Je me souviens très bien de ma grand-mère qui disait, vous savez, hauts faits, orgueil, tout ça, ça ne sonne pas du tout avec ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, avec mon grand-père, mon papy Max, ils ont sauvé des gens. Vous savez, pas parce que pour avoir de la gloire ou que sais-je, ou des gains, peu importe. Donc, elle le disait elle-même, Angèle Arbé, elle disait, on les a sauvés parce que c'était des gens. Ça veut tout dire. Et ben là où vous êtes, on l'appelle d'ailleurs ce petit chemin qui est la partie supérieure du triangle, hein, si vous voulez, c'est le chemin de la liberté ou la petite promenade d'Angèle. Parce qu'effectivement, c'est ici que le grand-père et la grand-mère passaient. Et là où vous êtes, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu la vie sauve. Il y a eu des résistants français, il y a eu des personnes juives, il y a eu aussi des aviateurs alliés, donc anglais, américains, et il y a eu aussi, parce que j'en ai rencontré un, il y a eu des espions suisses. Alors ça, c'est incroyable, parce que je me demande comment ils arrivaient à cacher, ne serait-ce que leur accent. Enfin bon, passons. Donc voilà, là vous êtes sur un lieu haut en couleur.
La télé, ça va, ça dérange pas. Donc, en attendant, non ?
Il y a Pupus avec un dessin animé du côté suisse. Parce que là, c'est. Là où je suis, c'est.
C'est la Suisse, ouais. En fait, la frontière se trouve là sur.
Sur le trait.
Sur le trait qui est là, voilà, absolument. Qui est très symbolisé par les joueurs de cartes. Et donc là, nous sommes côté France et de ce côté-là, Suisse.
Alors, si on marche 1, 2, 3, 4, 5, 5 pas, ça y est, on est en Suisse. Et il y a des cloches partout, en fait.
Oui, oui, ça matérialise bien le secteur, hein, où l'on vit avec les pâturages. Hein, nous avons la Désalpe chaque année. Hein, c'est vraiment un lieu très, très prononcé. Nous sommes vraiment en pleine montagne.
Alexandre Perron, on vient de longer la route française, on est rentré en Arbésie, ouais. On est à l'accueil en fait de l'hôtel.
Tout à fait.
Mais concrètement, on a parlé de Napoléon III, de Pontus, de votre grand-père, du réseau des Juifs, mais les Allemands dans l'hôtel, ils étaient où ici ?
J'ai envie de vous dire, ils sont exactement là où vous êtes. Parce que finalement, ils avaient une bande relativement étroite sur laquelle ils pouvaient être. Parce que, vous voyez, on a longé la route côté français. Mais c'est pas seulement une route, parce que pendant la guerre, là, c'est vraiment le comble du rocambolesque, j'ai envie de dire, parce que cette route, c'est la ligne de démarcation. C'est l'endroit le plus étroit de toute la zone occupée, la zone française. Okay ? Le parking que vous avez vu, qui est juste en face de nous, là, qui est à 20 mètres, il est déjà en zone libre. Donc, vous voyez, c'est... Alors, vous imaginez, on a en face de nous un parking qui est à 30 mètres, juste une route qui est à 10 mètres. Là, à l'intérieur, on a 20 mètres d'espace où les Allemands peuvent être là. Et devant nous, là, on a un escalier qui, lui, va traverser la frontière à sa septième marche. Et donc là, on est déjà en Suisse. Donc les Allemands peuvent pas monter. Donc oui, c'est complètement incroyable. La personne qui est réfugiée, qui veut passer les lignes de démarcation, elle fait d'une pierre deux coups. Si elle s'y prend assez vite, paf, elle passe en Suisse.
Donc en fait, on est passé de la contrebande du sel et de l'alcool à la contrebande d'êtres humains qui fuyaient le nazisme.
Alors, il y a eu deux choses qui se sont passées. C'est qu'il a passé beaucoup de juifs, quand même, qui ont, donc il a eu le droit à la médaille des justes. Mais surtout, sa responsabilité était de recevoir des messages très importants qui venaient d'infiltrer à Berlin. Et les transmettre au consulat de Lausanne. Alors là, c'était délicat parce que il fallait recevoir les documents et puis aller en Suisse discrètement, quoi.
Jean-Charles Aoud, si on parle un peu de la Seconde Guerre mondiale, l'Arbésie a joué un rôle important.
L'Arbésie est un lieu assez ahurissant puisque on pouvait quand même passer facilement ici. Moi, j'ai vécu un moment très émouvant, mais souvent beaucoup avec Bernard. Dans les années tout début 2000, il y a un vieux monsieur qui est venu donc en Arbésie avec une barbe blanche, avec un chapeau noir, et puis il a demandé si cet hôtel-restaurant un peu atypique était toujours la propriété de la même famille. Et il a raconté son histoire à la serveuse qui était là. Et il lui dit, donc pendant la guerre, j'étais avec ma famille, donc dans une ferme, ma femme, mes deux enfants, et puis on attendait pour effectivement passer en Suisse. Voilà, il s'agissait de juifs et terrorisé, bien sûr, voilà, par cet enfer. Et c'est Bernard, donc, qui allait les chercher. Son père lui avait dit, tu vas trouver un monsieur avec son chapeau noir, une barbe noire, et puis sa femme et ses enfants, et quand tu verras le voyant vert, tu les feras passer, effectivement, donc, de l'autre côté. Et donc, 2000, donc, quand ce vieux monsieur, cette fois, revient, effectivement, sur le même emplacement, eh bien, il demande si c'est toujours la même propriété. Et Bernard, le prince, est en cuisine, parce que c'est un prince de travail, déjà, et avant tout. Et il est en cuisine, et la serveuse va le chercher. Et puis le vieux monsieur lui raconte cette histoire, et il lui dit, « Eh bien, le gamin qui vous a fait passer la frontière, c'est moi. » Voilà.
Belle histoire.
Histoire vraie. Mais belle histoire, et on devait aller ensemble à Yad Vashem. Et puis malheureusement, bon, il a eu un problème de santé, mais il m'a demandé d'aller, au Mur des Justes, qui est un lieu plus qu'impressionnant, quoi. Voilà. Et le lieu où le nom de Max Arbé est gravé est juste en dessous de ces wagons à bestiaux. Où on a empilé donc tous ces hommes, ces femmes, ces enfants. Et ce wagon avance dans le vide. Il est sur deux rails et on le voit qui part dans le vide. Et c'est juste en dessous qu'il y a effectivement donc des milliers de noms, malheureusement, des dizaines, des centaines de milliers de noms, mais aussi celui de Max Arbé.
De la chambre 9, comment ça se passe?
Alors là, on a vraiment vu sur la douane, hein, je ne l'invente pas. Regardez, vous avez juste le drapeau suisse qui est juste à la fenêtre. Et vous pouvez voir que la frontière, en fait, passe au milieu de la fenêtre. Puis finalement, si on fait le prolongement, ça passe au milieu du lit. Là, en l'occurrence, on a mis plutôt la tête en Suisse et puis les pieds en France.
Alexandre Perron, est-ce que Charles de Gaulle a dormi dans cette chambre?
Alors, pas spécialement dans celle-là. Charles de Gaulle est venu à deux reprises, en fait, parce qu'il est passé aussi dans les années 60, sachant qu'il y a deux choses qui l'ont interpellé. Mon grand-père était de la Résistance, donc le général est passé et a salué mon grand-père. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est ici qu'avaient été préparés les accords d'Évian dans les années 60 pour mettre fin à la guerre d'Algérie et puis créer le nouvel État. Donc ça faisait quand même deux points communs à présenter au général de Gaulle, qui s'est tenu en fait juste en face. Vous voyez là-bas, on lui a présenté la situation exceptionnelle de l'hôtel.
Est-ce que vous avez aussi une spécificité? Est-ce que vous n'êtes pas franco-suisse vous-même?
Alors, on est tous franco-suisses, vous les misseurs qui sont en bas. Mais là, faut vous avouer que on est la génération, la troisième, la quatrième, selon. Et c'est à notre génération qu'on a commencé à demander la nationalité suisse. Donc, on l'obtient. On est français, en fait, d'origine. Et on demande, alors c'est drôle parce que, honnêtement, je veux dire, je pense que mon grand-père, s'il était encore de ce monde, je pense qu'on n'aurait pas pu. Parce qu'il était vraiment très accroché à la France. Aujourd'hui, le but du jeu, hein, c'est de prendre les qualités de chaque côté. Hein. Pas toujours facile, hein, vous savez. Mais de prendre ses bons côtés. Vous voyez, on parlait de démocratie, de choses comme ça. Bon, on peut quand même le dire, la Suisse, c'est vraiment une démocratie très aboutie, où chaque citoyen est très... on l'a vu, nous, très concrètement, en mettant nos enfants à l'école suisse, qui est plus proche, hein, puis on est sur une zone plus urbaine côté Suisse. Et effectivement, la chose qui m'a le plus surpris, c'est de voir que nos enfants, je dis nous, parce que mes sœurs, donc mes nièces, mes neveux et mes fils, ont pris très très vite le sens des responsabilités. Ils choisissent, ils prennent leurs décisions pour eux-mêmes. Donc on est aussi content d'avoir l'Institut suisse.
C'est un cas, notre maison, parce que à Paris, au ministère des Finances, ça posait problème. Cette maison, elle n'est pas normale, non. Mais on ne peut pas la contrôler. Oui, mais ils contrôlaient les extérieurs. On était contrôlés. Sortant d'ici, les douaniers venaient, puis vous pouvez vous contrôler en disant, monsieur, vous avez quelque chose à déclarer, vous avez passé... Parce qu'en 68, et puis quand Mitterrand est arrivé, il y en a pas mal qui se sont défilés. Alors on voyait des gens arriver. Bonjour, on boit un café. Oui, vous pouvez boire un café. Bon. Et puis la dame passait la voiture, mais c'est pas à nous de faire le contrôle. Hein. On savait bien qu'ils avaient des valises, on savait bien ce qui se passait. Et puis c'est des gens qu'on connaissait un petit peu, donc c'était des anciens clients qui connaissaient la maison. On n'est quand même pas délateurs. Il y a la police, il y a la douane qui est là, et c'est à eux de faire leur boulot.
Il y a encore des gens qui se baladent avec des grosses valises à l'hôtel ?
C'est plutôt des petites musettes.
Mais qu'est-ce qui est vraiment suisse en vous ? Qu'est-ce qui est français ?
Ah, je suis désolé, là, mon cœur reste quand même côté français. Si vous regardez bien où passe la frontière, là, j'ai vraiment le cœur côté français.
Est-ce que le portefeuille...
c'est ce que j'allais dire. Mais le portefeuille, regardez bien, il est bien du côté suisse. Donc voilà, on reste... Non, j'aime bien être dogmatique, voire même philosophique comme les Français, et pragmatique comme les Suisses.
C'était un établissement traversé par l'histoire, avec Bernard Arbé, son fils Alexandre, Jean-Charles Arnaud, président des fromageries Arnaud, le photographe Nicolas Gascard, sans oublier Arlette et Jean-Yves. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède.